Il est 6h19, je vous présente l'invité du 5-7. Il est médecin de formation, il a occupé de hautes fonctions internationales dans le domaine de la santé. Il a notamment dirigé le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Bonjour Michel Kazatchkine.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous êtes membre du panel indépendant chargé d'évaluer la gestion mondiale de la pandémie de Covid, un groupe qui ne compte que 11 experts à travers la planète et vous êtes le seul Français. Après de très longues négociations, une équipe de l'OMS arrive aujourd'hui enfin en Chine. Ces experts veulent retracer l'origine de la pandémie. Comment vont-ils s'y prendre? Comment on fait pour remonter aux origines d'un virus?
Il est logique qu'ils viennent en Chine parce que c'est l'endroit où le premier cluster est apparu. Mais soyons prudents, au moment où nous parlons, nous ne savons toujours pas l'origine de ce virus. Nous savons que la chauve-souris est l'hôte de coronavirus qui ressemble le plus au virus humain, mais nous ne savons pas si la chauve-souris est le réservoir, et nous ne savons pas, nous ne connaissons pas l'animal intermédiaire qui aurait pu transmettre le virus à l'homme. Nous ne savons pas non plus si Wuhan était le début, le vrai début de l'épidémie. C'était en tout cas le premier cluster. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rechercher des échantillons de plasma, de sang qui auraient été congelés, de malades qui auraient pu avoir des symptômes qui ressemblent à ceux de la Covid-19, des plasmas qui auraient été recueillis dans les mois qui ont précédé le cluster de Wuhan, en octobre, en novembre, voire même plus tôt, et voir s'il y avait déjà des traces de coronavirus circulant. Une enquête qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps et je crois que...
Mais vous pensez qu'ils vont réellement pouvoir la mener, cette enquête, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, les autorités chinoises vont simplement les autoriser à relire leur propre enquête à elles?
Alors, je crois que c'est évidemment politiquement très sensible, du fait du climat qui a prévalu l'an dernier, et en quelque sorte des accusations que le gouvernement américain avait portées contre la Chine pour être responsable d'une pandémie mondiale. On est maintenant dans un état d'esprit plus apaisé. Le climat est tendu, mais j'espère qu'ils pourront mener cette enquête en collaboration avec les scientifiques chinois qui ont beaucoup publié sur le sujet. Vous savez, il y a maintenant des données qui indiquent que des anticorps anti-Covid, ou qui ressemblent beaucoup à des anticorps anti-Covid, étaient présents dans le plasma de patients dans certaines villes européennes en octobre ou en novembre 2019. Donc, on est encore très loin d'avoir des conclusions. Mais il est logique de commencer à Wuhan, c'était le premier cluster, le premier foyer.
Michel Kazatchkine, je rappelle que vous avez dirigé le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme. Cette pandémie, la pandémie actuelle, a déjà fait, elle est quasiment 2 millions de morts en un an. Vous qui avez donc longuement travaillé sur d'autres épidémies, vous trouvez que celle-ci est particulièrement meurtrière ?
Elle est meurtrière dans des groupes vulnérables de la population. Elle est vulnérable en Europe chez les personnes âgées, elle est vulnérable chez les plus pauvres, elle est particulièrement meurtrière chez les personnes qui ont des comorbidités. Elle est vulnérable parce que le virus se transmet extrêmement vite, il est contagieux. N'oubliez pas qu'un virus comme celui du sida était un virus que nous appelons transmissible. Il se transmettait par le sang, par voie sexuelle. Ici, c'est un virus respiratoire contagieux. Un peu comme l'était la tuberculose. Et les variants qu'on voit maintenant, comme le variant britannique, sont particulièrement transmissibles et particulièrement contagieux. Donc son caractère meurtrier, alors même qu'intrinsèquement ce n'est pas une maladie très meurtrière, vient de l'extrême rapidité avec laquelle elle se répand.
Vous avez évoqué le variant britannique, il y en a un qui vient aussi d'Afrique du Sud, un autre du Japon, il y en a un qui a été repéré au Brésil. On est un peu perdu, est-ce qu'ils sont tous différents et est-ce que c'est l'apparition de tant de variants, est-ce que c'est une évolution normale avec ce genre de pandémie ?
Alors c'est une évolution normale parce que le virus se reproduit très très vite. Quand il se reproduit, il se recopie. Et quand il se recopie, il commet certaines erreurs de copie. Comme lorsque vous retranscrivez quelque chose, vous pouvez oublier un accent, une virgule, intervertir un caractère typographique. Il y a des mutations qui se font au hasard, il y a des milliers de mutants du virus qui se font ainsi au hasard, mais il y a des mutations qui ne se font pas au hasard. Il y a des mutations qui se font dans l'intérêt du virus, parce que ce que le virus cherche à faire, c'est à se multiplier de plus en plus. Alors quand il rencontre des résistances dans l'environnement, par exemple, il rencontre de plus en plus de gens qui ont des anticorps antivirus parce que ils ont guéri du Covid ou à l'avenir parce qu'ils auront été vaccinés, le virus va chercher à échapper à cette pression, échapper à cette résistance et donc muter dans un sens qui fera que il deviendra ou plus transmissible ou potentiellement résistant aux anticorps et notamment aux anticorps des vaccins. C'est ça le problème.
Donc,
dans
les
prochaines semaines, pour l'instant, on ne le sait pas, mais on a des craintes sur le virus sud-africain. Et la raison pour laquelle on a des craintes sur le virus sud-africain, c'est que, en Afrique, la population est très jeune. Je vous rappelle que la moyenne d'âge en Afrique est de 19 ans, alors qu'elle est de plus de 40 ans dans nos pays occidentaux. La population est très jeune, elle élabore une réponse immunitaire très vigoureuse contre le virus, et donc elle exerce une pression forte de défense contre le virus. C'est pour cela qu'il y a si peu de malades en Afrique. Et cette réponse immunitaire risque de faire naître des mutants qui seront sérieusement résistants aux anticorps que l'on connaît actuellement. On a des signaux nous disant que c'est malheureusement une possibilité. Donc, au moment où nous parlons, je crois que ces variants vraiment vont devenir le défi scientifique des prochaines semaines et le défi de santé publique, possiblement, des prochaines semaines dans la pandémie.
Vous parlez de résistance immunitaire. Expliquez-moi, je comprends pas bien, en fait, pourquoi l'Afrique est un continent relativement épargné aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la première raison est précisément démographique. La jeunesse de la population fait que les jeunes élaborent plus facilement une bonne et une forte réponse du système immunitaire contre le virus. Il y a peu de malades en Afrique, ça c'est un fait avéré. Mais quand on fait des enquêtes en population pour voir combien de personnes ont pu être infectées en mesurant dans leur sang le taux des anticorps anti-Covid qu'ils ont pu produire, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont été infectées qu'on ne pensait. Et ça, c'est dû au fait que les gens ne voient pas, sont asymptomatiques, font des infections qu'ils ne ressentent pas, donc ils ne vont pas chez le médecin, ils ne vont pas se faire tester. Et cela vient de ce que la population jeune, comme je le disais, élabore une réponse immunitaire vigoureuse. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, et elle est largement sous-estimée quelque part dans l'opinion publique quand on parle de l'Afrique, c'est que les Africains se sont bien organisés. C'est que ces personnes qui ont connu le sida, qui connaissent le paludisme, qui ont connu l'épidémie d'Ebola pour une grande partie du continent, savent, au niveau communautaire, s'organiser. La distanciation sociale, le port du masque, ce sont des choses qu'ils savent faire, qu'ils comprennent, qu'ils s'approprient. La réponse préventive en Afrique a été, quelque part, dans de nombreux endroits, beaucoup plus simple à mettre en place que dans nos pays.
Merci Michel Kazetchkine. Je rappelle que vous faites partie du panel indépendant chargé d'évaluer la gestion mondiale de la pandémie de Covid et vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.